Comment changer sa vie et sortir du lot dans son domaine. Il y a quelques temps, j'ai fait une conférence payante pour L'Oréal qui s'adressait à des entrepreneurs, des créateurs de salons de coiffure. Ils m'ont demandé de faire une conférence pour les aider à faire exploser leur salon de coiffure, leur entreprise. Et j'ai eu envie de te partager gratuitement cette conférence là sur YouTube parce que je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle a deux parties. Il y a une première partie où j'aborde finalement des éléments de neurosciences sur comment changer sa vie et une deuxième partie sur des éléments qui m'ont aidé à développer mon entreprise, à la faire même exploser. Donc j'espère vraiment que tu vas kiffer toute la valeur qu'il y a dans cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, laisse un commentaire de sorte que cette vidéo puisse impacter la vie d'un maximum de monde. Donc que tu sois entrepreneur ou pas, tu vas au minimum kiffer la première partie et dans la deuxième partie, il y a même des coulisses de comment je développe mon entreprise. Donc j'espère que tu vas adorer cette conférence. Je réponds à la question 5 clés qui ont changé ma vie personnelle et en tant qu'entrepreneur. C'est parti.
Moi, je suis très content d'être là. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui osent créer leur entreprise. Je trouve que créer son entreprise, c'est pas tous les jours facile en ce moment. On voit plein de vidéos qui font la promotion de l'entrepreneuriat comme un long fleuve tranquille, hyper facile et confortable. Je sais pas si c'est ce que vous vivez, mais moi, c'est pas ce que je vis. Mais il y a quelque chose d'excitant dans le fait d'être un peu un viking, d'aller à l'aventure, de vivre de l'adversité, de la transformer, de la dépasser. C'est vraiment, moi, un sujet qui me passionne. J'ai envie de vous partager cette histoire d'amour là que j'ai découvert avec les neurosciences, le cerveau, le coaching et à quel point en fait on a le pouvoir pour transformer sa vie. Donc si ça vous inspire, on part ensemble dans 5 éléments qui changent ma vie à titre perso et qui changent mon business. Et je les ai choisis en m'appuyant sur ce qui apparemment sont les difficultés que vous rencontrez. De ce que j'ai compris, il y en a 3. Il y a comment recruter des talents, comment les garder, comment arriver à attirer davantage de clients et comment avoir l'énergie au quotidien pour déplacer des montagnes. Ok, donc comment expliquer que certaines personnes ou certaines entreprises cartonnent malgré des changements? Parce que j'ai cette passion d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens réussissent ou non, je vais à la rencontre de plein de gens qui m'inspirent, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des négociateurs du GIGN, à chaque fois passer entre 2 à plusieurs jours avec eux, essayer de rentrer dans leur tête, comprendre quelles sont les questions qui se posent, c'est quoi les habitudes qu'ils ont, les routines qu'ils ont, qui font qu'ils arrivent à se créer ces parcours-là. Et ce que j'adore spécialement, c'est des gens, par exemple, là, il y a quelques jours, Patrick Mouratoglou, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le coach de Serena Williams pendant 10 ans, et qui est pareil, né timide, complexé, mal dans sa peau, qui a fait 1 an de psychanalyse où il n'arrivait pas à parler au psychiatre. Et de se dire qu'aujourd'hui, il accompagne les plus grands sportifs. J'adore ces histoires-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui a permis ce changement. Donc partons dans une découverte qui a été faite par Stanford. Stanford, c'est une grosse université américaine. Ils ont analyser les réactions dans le cerveau de personnes quand on les met en situation où on les critique, on leur dit « non, c'est pas terrible ce que tu fais, t'es pas bon, t'es pas un bon vendeur, tu t'exprimes mal, t'arrives pas à faire telle technique », ou des situations où ils échouent. En gros, ils peuvent pas y arriver. Et ce qu'ils essaient de voir, c'est est-ce que l'état d'esprit, c'est un truc dont on parle, ou est-ce qu'il y a une vraie manifestation physique? Est-ce qu'on pourrait regarder ton cerveau et pouvoir déterminer, juste en regardant ton cerveau sans te parler, quel état d'esprit tu as? Donc c'est ça l'idée de la recherche. Ils vont se rendre compte, et c'est fascinant, qu'on peut découper le groupe en 2 groupes, juste en regardant leur cerveau face à une situation d'échec ou de critique. Pour comprendre le groupe 1, on va regarder une partie du cerveau qui est fascinante. Donc, vous voyez une situation, vous imaginez, vous vous baladez là sur l'île, en forêt, tranquillement, vous êtes serein. C'est un beau chemin de terre, il y a des beaux arbres, vous êtes détendu. Et puis en marchant, à un moment donné, à 50 mètres, vous voyez apparaître un tigre. Là, votre rythme cardiaque va changer, vous allez avoir les mains moites, vous allez avoir le champ visuel qui se rétrécit, vous allez d'un coup ne plus être capable d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, ça change votre capacité de digestion, votre système immunitaire va disparaître parce que ça ne sert à rien d'être capable de gérer une angine quand tu as un tigre. L'idée, c'est de pouvoir survivre. Et là, il s'approche. Maintenant, il n'est plus à 50 mètres, il est à 3 mètres. Et ensuite, il est face à toi. Au fur et à mesure que le tigre va s'approcher, et d'ailleurs, rien que de voir la photo, ça peut créer une fraction de ce truc-là. Il y a une partie de notre cerveau qui se met en route, qui est une partie qui est très primitive, qu'on va retrouver chez les singes, qu'on va retrouver chez les chats, chez les chiens, qui s'appelle l'amygdale. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la gorge. C'est une partie du cerveau qui a une seule mission, vous protéger, vous permettre de survivre. Ça veut dire que si je perçois un danger, comme un tigre, plus le danger il est proche, plus le danger il est imminent, plus le danger il est grand, plus l'amygdale elle prend le contrôle du cerveau, et elle n'a que 3 stratégies que vous avez déjà entendues certainement, qui sont les stratégies un peu pour le cerveau, c'est que s'il est là, je ne bouge pas. On ne sait jamais. Il ne m'a peut-être pas vu. Là, j'ai pas de doute. Là, il m'a vu. Donc là, je fuis. Et généralement, quand il est là, j'attaque. Donc, ces trois stratégies de base que vous avez, parfois, vous êtes fatigué, il y a un client, il est de mauvaise humeur, et vous ne savez pas pourquoi, vous l'attaquez. L'attaquez pas physiquement, enfin, en tout cas, j'espère, mais vous êtes moins agréable, vous ne le regardez pas, vous ne souriez pas, vous lui faites une remarque, et ça sort comme ça. Ou peut-être, ce n'est pas vous, mais quelqu'un de vos équipes. Ou peut-être, vous fuyez la relation, vous ne le regardez pas dans les yeux, vous n'osez pas poser vos limites, bref, attaque, fuite, repli sur soi. Cette partie du cerveau, est-ce qu'elle est utile? Oui, pour survivre à un tigre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau, il a encore tendance à fonctionner dans beaucoup de situations comme si c'était un tigre. Pour une partie de notre cerveau, le Covid, perdre un employé, avoir une baisse de chiffre d'affaires, c'est encore perçu comme s'il y avait un tigre. Et c'est hyper important de comprendre ce truc-là. La mission de l'amygdale n'est pas de multiplier le chiffre d'affaires. La mission de l'amygdale n'est pas d'attirer des nouveaux clients. La mission de l'amygdale n'est pas d'arriver à trouver ce top talent que vous cherchez. La mission de l'amygdale, c'est survivre. Et en fait, il y a des études qui ont été menées qui on prend un groupe de personnes, 300 personnes, et on leur fait faire des tests de QI. C'est les mêmes personnes, c'est la même génétique. Mais dans un cas, on va créer des facteurs de stress. Et on leur fait faire le même test de QI qui est censé mesurer l'intelligence. On se rend compte qu'en fonction d'à quel point on est stressé, à quel point on perçoit un danger, notre QI baisse. Et on est moins capable de résoudre des problèmes plus complexes. Or, faire x10 sur son chiffre d'affaires, c'est un problème complexe. Trouver des talents dans une conjoncture où on va se battre, c'est la guerre des talents, c'est un problème complexe. Il ne suffit pas de courir, il ne suffit pas de mettre un pain. Vous êtes d'accord ? C'est plus subtil que ça. Mais quand on est en stress, on fait ce qui a marché par le passé. Alors, s'il y a des choses qui ont marché par le passé, ça va nous aider quand même à avancer, mais on ne va pas innover. On ne va pas aborder le problème différemment. Et je ne sais pas vous, moi j'adore les chats, mais les chats d'il y a 500 ans et les chats d'aujourd'hui, c'est les mêmes. Ils n'ont rien innové. Ils n'ont pas inventé une nouvelle stratégie pour gérer leurs croquettes, faire un compte d'épargne, voir comment ça pourrait se développer. Non, les chats, on les adore, mais je ne sais pas vous, mais moi j'aurais pas envie que mon chat gère ma boîte. J'aurais pas envie que mon chat il gère mon couple. J'aurais pas envie que mon chat il gère la relation client. Parce que le chat, lui, ce qu'il veut, c'est faire ce qui a marché jusqu'à maintenant. Et la force de l'être humain, c'est cette capacité à innover. Donc, le premier groupe, ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est l'amygdale qui se met en route. Et que quand tu les critiques, tu leur dis « Non, c'est pas terrible ce que tu fais, là, t'es pas bon », ou tu as un petit commentaire sur Google Review, sur votre salon de coiffure, boum, l'amygdale se met en route. Et quand ça se passe, ils se figent, pas physiquement, mais ils arrêtent d'innover. Et ça correspond à plus de 80% de la population. Et c'était typiquement ce qui, moi, m'arrivait. J'avais peur d'être critiqué en cours, donc je levais pas la main. J'avais peur de... Par exemple, ma première vidéo, la toute première que j'ai mise sur YouTube, j'étais tellement stressé à l'idée de la mettre, j'ai mis 2 semaines à la tourner, 2 semaines à la monter, 2 semaines à la mettre sur YouTube, 2 semaines à cliquer sur publier, parce que j'avais peur en fait que d'un coup, il y ait quelqu'un qui me critique. Et pour mon cerveau, être critiqué, c'était égal à mourir. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y a un mec qui est sorti de nulle part, je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur ça sur YouTube. Un mec sorti de nulle part, j'avais je pense 3 abonnés, moi, ma mère et mon deuxième compte. Et il y a un mec qui sort de nulle part et qui met sur ma première vidéo « Tu ne mérites pas de vivre ». Mais encore une fois, tu as 2 manières d'y réagir en fait. Moi, à cette époque-là, j'avais encore beaucoup l'amygdale qui se met en route et donc je le vivais comme un danger de mort. Et c'est vraiment ça que je veux appuyer là, c'est que pour beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de situations, on perçoit être critiqué, donc on n'ose pas se mettre sur les réseaux sociaux, on n'ose pas mettre en avant son salon de coiffure, on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas innover, on n'ose pas sortir des cases par rapport à ce que feraient des concurrents, parce qu'on a peur d'être dérangé. Et ça, c'est l'amygdale qui prend le dessus. L'autre groupe, ils se rendaient compte qu'ils avaient une autre partie du cerveau qui se mettait en route. C'est-à-dire qu'au lieu que le contexte actuel active l'amygdale et qu'il passe en mode survie et qu'il perd du QI, ils se rendaient compte qu'il y a une autre partie du cerveau, qui est la partie qui est devant, qui s'est développée avec le temps. Là, si on voit l'évolution des espèces de singes jusqu'à nous, on voit qu'en fait, le crâne, il est relativement de la même taille, mais il y a une partie qui change, c'est le devant du crâne, qui devient de plus en plus poussé. C'est la partie qui a le plus évolué chez l'être humain et qui s'appelle le cortex préfrontal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les missions, c'est quoi ? Résolution de problèmes, prendre des décisions, imagination, régulation des émotions, vision, intuition, empathie. Impossible d'être un bon marketeur ou un bon vendeur ou bon dans la relation client sans empathie. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous êtes stressé, vous n'arrivez pas à connecter avec votre femme ou votre mari ou vos enfants. Vous êtes sur vous-même. Vous n'arrivez pas à connecter à votre client quand vous êtes vous-même stressé. Cette partie-là, elle est capable de faire abstraction de moi et d'arriver à regarder le monde dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et donc de trouver la bonne offre, le bon discours, la bonne manière de gérer un client qui est énervé. Mais ça, c'est possible que si j'ai cette partie du cerveau qui est en route. Et donc, le deuxième groupe, au lieu que l'adversité les éteigne, l'adversité même les réveillait. C'est pas qu'ils étaient aussi bons qu'en temps normal, ils étaient meilleurs qu'en temps normal. Et donc du coup, Stanford a commencé à populariser un concept qui s'appelle mindset fixe et mindset de croissance. Et pour le schématiser, dans le mindset fixe, je suis comme je suis. Sous-entendu, si je ne suis pas un bon vendeur, bah, c'est comme ça. Et tu entends des gens qui disent ça. Moi, je n'ai jamais été organisé, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais été un bon vendeur, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais été bon stratège, c'est comme ça. Et on l'entend en permanence. Et si on est honnête, on le dit ce truc-là. On se répète à soi-même qu'on est comme on est. Mais est-ce que tu es né avec ton accent ? Est-ce que tu es sorti du ventre de ta mère et tu avais un accent du Sud ? Non ! C'est un truc que tu as appris, mais ça te paraît tellement naturel, parce que c'est des années de répétition. Des années de répétition, tu crois que c'est toi. Dans un mindset de croissance, tu es convaincu d'un truc, tout s'apprend. L'organisation, la productivité, la vente, le marketing, la prise de parole en public, même la sexualité, j'ai pas le temps de vous en parler, mais je pourrais vous en parler. L'adversité, ça me révèle. L'effort et l'entraînement, ça conduit à la réussite. Là, où quand tu as un mindset fixe, et on l'a tous, hein, qu'on soit d'accord, je l'ai encore, vous l'avez, on l'a tous dans des situations différentes. Quand tu as un mindset fixe, si tu fais quelque chose et que c'est dur, ça veut dire que tu es nul. Quand j'ai préparé mon spectacle en 2014 et que j'essayais des blagues et que ça ne marchait pas, je me disais, si ça ne marche pas, c'est que je suis nul. Mes résultats déterminent ma valeur. Là où dans le mindset de croissance, tes résultats, ils déterminent pas ta valeur. Ils déterminent juste, est-ce que ta stratégie, elle marche ou pas. Vous me suivez ? Donc après, ils se sont dit, bon, ok, c'est top, il y a deux groupes de gens. Mais est-ce qu'il y a des chanceux et des pas chanceux ? Est-ce que c'est génétique ou est-ce qu'on peut changer ça ? Et donc, il y a Carol Dweck, qui est une chercheuse à l'université. Elle a pris un groupe d'enfants. Elle s'est dit, on va tester ça sur les enfants. On les met face à des puzzles. D'accord ? Ils font le puzzle. Et après, on les prend un par un. Il y a groupe A, groupe B. Groupe A, il y a des parents, vous allez vous reconnaître dans des phrases qu'on dit spontanément. Groupe A, ils prennent le petit bout de chou. Ils lui disent, mon petit bout de chou, tu sais quel résultat t'as eu ? Il dit, non, je sais pas. Tu fais partie des meilleurs. Il dit, oh, tu sais pourquoi ? Parce que tu es plus intelligent que la normale. Et là, il repart, il est content. Groupe B, l'enfant arrive. Il dit, tu sais quel résultat t'as eu ? Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les résultats, ils s'en foutent. Tu sais quel résultat t'as eu ? Non, je sais pas. Tu fais partie des meilleurs du groupe. Ah bon ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu as fait plus d'efforts que la moyenne. Donc ça, c'est l'expérience numéro 1. Ensuite, expérience numéro 2, ils mettent tous les enfants. Et là, ils peuvent choisir les enfants. De même, puzzle facile. Puzzle moyennement facile, puzzle très difficile. À votre avis, en moyenne, qu'est-ce que les enfants du groupe A à qui on a dit « t'es intelligent » ou qu'est-ce que les enfants du groupe B où on a dit « t'as réussi parce que t'as fait des efforts » À votre avis, qu'est-ce qu'ils choisissent ? Ceux à qui on a dit qu'ils étaient intelligents, et ça paraît contre-intuitif, parce qu'on a envie de dire à nos enfants « t'es intelligent, t'es beau », ils prennent la facilité. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on m'a dit que j'ai réussi, lié à ma génétique. Est-ce que j'ai choisi mon intelligence ? Non. Donc j'ai réussi parce que j'ai eu un coup de bol. J'ai surtout pas envie de te donner tort. Donc je prends le truc le plus facile. Donc je prends pas de risque. Alors que ceux à qui on a dit, t'as réussi parce que t'as fait des efforts. Les efforts, est-ce que c'est en mon pouvoir ? Bien sûr, c'est en mon pouvoir. Je peux faire 2 minutes de plus, 10 minutes de plus. Par contre, être plus intelligent, je peux pas être là. Allez, David, sois plus intelligent. Et donc les enfants à qui on disait qu'ils réussissent parce qu'ils sont en train de faire plus d'efforts, c'est fascinant. Regardez bien les stats. 90% choisissent le jeu le plus difficile. Ils persévèrent davantage. On leur dit, c'était comment ? Ils disent, c'était fun. Et ils ont plus de résultats. Le groupe A, ils abandonnent plus facilement. Prennent le jeu le plus facile. On leur dit, c'était comment ? Ah, c'était ennuyant. Et là, en fait, ce que se rend compte Stanford, c'est qu'en fait, le mindset, ça se développe, ça s'apprend. Et on peut même le retrouver en neurosciences. Donc, je vous en parle juste après. Donc, si on fait très schématique, et l'idée, c'est pas de le regarder simplement, ah oui, c'est intéressant, mais dire quand dans ma vie ? Je fais ça. Par exemple, en esprit fixe, l'échec ou la critique, c'est la honte. Si on me critique, c'est que je suis nul. Moi, c'était ça pendant des années. Si je sors une vidéo et qu'il y a plein de gens qui mettent que c'est nul, c'est que je suis nul. Et j'ai honte. Là où dans un esprit de croissance, c'est une leçon. Tiens, c'est un feedback. Qu'est-ce que les gens aiment ? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas ? Et c'est aussi un signe. Parce que les gens les plus critiqués de l'histoire, est-ce que c'est les gens qui font rien ? Non. Donc c'est top, c'est un indicateur. Ça veut dire que j'avance, c'est bon signe là. Je suis en train de faire des trucs qui dérangent, c'est bon signe. Je suis en train de sortir de la mêlée. J'arrête d'être dans la petite case où je joue petit pour pas faire de bruit. Les obstacles, ils sont à éviter parce que c'est dur, je veux une vie facile. Ça, c'est mon amygdale, je veux une vie facile. Alors que dans la partie du cerveau qui est le cortex préfrontal, tu cherches la difficulté. Là, j'ai passé du temps avec un gars qui m'inspire, Mike Horn. Vous savez, il a des records de dingue. Il a traversé l'Atlantique, il est allé en Amazonie, c'est dingue. Et à un moment donné, je lui dis, mais raconte-moi, comment ça se passe dans ta tête ? T'es au milieu, il est dans une petite barque comme ça, en plein milieu d'un lac de 600 km. Il voit les nuages noirs qui arrivent. Les chances de mourir viennent de passer à 95%. Et je lui dis, tu te sens comment ? Il me dit, je suis excité. Waouh ! Et en fait, moi, je vais pas aller me foutre sur un lac de 600 km, c'est ce que je lui ai dit. Et en fait, on a chacun notre manière d'être un Mike Horn. Lui, c'est dans l'aventure. Mais on peut être un aventurier en tant que coiffeur, en tant qu'entrepreneur. On peut aller prendre des risques et on peut programmer son cerveau à dire « c'est difficile, yes ». Exactement, il y en a qui font peut-être du sport ici. À la salle de sport, tu vois des gars ou des nanas qui sont comme ça « ah !» Franchement, si tu faisais une capture d'écran et tu donnais ça à des gens en disant « est-ce qu'il a l'air heureux ?» Non, il n'a pas l'air heureux, mais dans sa tête, plus je souffre, plus ça se développe. Et en fait, pourquoi ça marcherait pour le muscle et pas pour ton cerveau ? Si ça fait mal, si je suis en train d'être critiqué, si je rate, c'est bon signe. C'est que je suis en train de développer le muscle. C'est que je suis en train d'apprendre à mieux communiquer. C'est que je suis en train de devenir le genre de personne qui n'est pas dérangée par le fait que des gens ne me comprennent pas ou par le fait de rater les 50 premières fois. Les efforts, bah c'est un signe de faiblesse ou alors c'est un indicateur. Un indicateur que je suis sur le bon chemin et même, et bah exactement comme à la salle de sport, c'est un signe, c'est-à-dire que j'ai réussi ma journée. Et ça, je l'adore, les compétences. Bah ouais, c'est pas moi, je suis pas productif, je suis pas bon à l'oral, je suis pas bon en marketing. Là où l'autre personne se dit tout s'apprend. Et d'un point de vue de neurosciences, ça s'explique, je vais le faire rapidement. Dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle de la myéline. Donc t'as les neurones, et il faut imaginer que c'est des autoroutes dans le cerveau, et t'as des petits chemins de campagne, et t'as des autoroutes. Plus c'est une autoroute, plus c'est rapide, d'accord ? Et donc plus c'est une autoroute, plus c'est facile pour vous. Quoi fait aujourd'hui ? C'est devenu une autoroute pour votre cerveau. Au début, c'est une route de campagne, c'est la galère, c'est le chaos, tu vois les cheveux, tu comprends rien ce qui se passe. Au bout d'un moment, ton cerveau, il automatise. Ça vous parle, ce truc-là ? Et en fait, ils se sont rendus compte que la myéline se met autour du circuit neuronal, de la même manière qu'on mettrait du bitume, qu'on mettrait une route plus large, à chaque fois que tu es dans l'adversité. C'est-à-dire qu'en gros, quand Mike Horn il est en train d'être dans l'adversité, il crée un circuit qui est plus fort et qui va lui permettre demain d'être plus à l'aise. Et donc c'est fascinant, ce qu'on se rend compte du coup en neurosciences, c'est que plus une personne se met en situation d'inconfort, plus elle développe un circuit neuronal qui fait que la prochaine fois c'est facile. Et donc c'est pas simplement un truc comme ça, bisounours, non c'est vrai. Si là, pendant les 3 mois qui viennent, vous choisissez un truc qui, vous le savez, peut changer la trajectoire de votre salon de coiffure. Et au moment où c'est inconfortable, vous dites « yes, là je suis en train de changer, réorganiser, reprogrammer mon cerveau. » Ben, ce qui est aujourd'hui inconfortable peut devenir demain hyper facile, exactement comme coiffer. Et je trouve ça fascinant. Et donc, plus on se met en situation d'inconfort, plus ça devient facile. Et donc c'est la première chose que j'avais envie de prendre le temps d'ancrer ensemble. L'adversité, c'est une opportunité. Et ce qui est magique, c'est qu'au moment où, en fait, on prend quelqu'un qui voit le Covid comme un danger et on l'aide à voir ça comme une opportunité, son lobe préfrontal se met en route. Et il se met à avoir des idées qu'il n'avait pas avant. Je vous donne un exemple. La Redoute. La Redoute, en 2012, fait une campagne de commercialisation pour enfants. Vous imaginez, grosse campagne de pub partout en France. Sur des magazines, sur des campagnes, sur l'autoroute. Avec des enfants comme ça qui ont l'air très contents. Sauf qu'ils ont fait une erreur. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils s'en rendent compte quand les médias explosent. Dans le fond d'écran, il y a un truc qu'ils n'avaient pas vu. Il y a un mec à poil. Donc vous imaginez, campagne pour enfants en plus. Il y a un mec à poil derrière des enfants. Donc là, gros bad buzz. Vous imaginez le niveau de stress. Là, le tigre, il est comme ça. Et regardez, ce qu'ils vont faire n'est possible, j'insiste, ce qu'ils vont faire n'est possible que parce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont été capables de faire un pas de recul en se disant « l'adversité peut être une opportunité ». Ce qu'ils vont faire, et qui est incroyable, c'est qu'ils vont transformer, vous êtes d'accord, une des quand même, c'est une bourde incroyable qui aurait pu détruire la marque, en quelque chose qui va booster le chiffre d'affaires. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir une campagne des 7 erreurs qui est hyper drôle, où les gens doivent trouver, par exemple, dans la piscine, l'alligator, le pull Adidas qui est sale. Et ça va se transformer en une deuxième campagne médiatique gratuite où tout le monde parle d'eux. Et leur chiffre d'affaires va exploser. Ça, un chat, il n'est pas capable de le faire. Mais on n'est pas capable de le faire non plus quand on laisse son cerveau croire que le tigre qui est en face de nous, il est réel. Parce que dans notre vie, on va s'avouer le truc. Le Thomas du 38 sur Internet qui dit que je suis une grosse merde, c'est pas un tigre. Il n'a aucune influence sur ma vie. C'est moi qui m'imagine que c'est un tigre. Si j'arrive à prendre un pas de recul et que je me dis « ce mec-là me fait grandir, ce mec-là m'aide à m'aimer, ce mec-là m'aide à mieux communiquer, ce mec-là m'aide à être meilleur. » Il y a un mec qui, pareil dans mes premières vidéos, dit « mais arrête de mettre le costume de ton père. » C'était pas le costume de mon père. Mais il avait raison. Il était largement trop grand. Je l'ai détesté, ce gars. Mais j'ai changé de costume. Et donc ça, c'est une phrase que j'adore. J'ai eu la chance d'accompagner un grand joueur de poker. Et c'est un truc que j'ai appris avec lui. Sur le long terme, c'est pas les cartes que t'as qui comptent. C'est comment tu joues avec. Un grand joueur de poker, il y a des jours, il a des cartes de merde. Mais il peut gagner avec des cartes de merde. Tu peux avoir un changement de conjoncture. Tu peux avoir une guerre des talents. Tu peux avoir un concurrent qui fait quelque chose. Et tu peux gagner. Moi, ça m'excite, ce truc-là. Parce que gagner, quand c'est facile, j'ai pas envie. Hier, j'ai passé du temps avec Alain Bernard, champion olympique. Il a pas envie que son adversaire, il se torde la cheville juste avant de rentrer dans l'eau. Parce que sa victoire serait moins savoureuse. Ça peut être excitant qu'il y ait de l'adversité. Et tous en nous, on a ça. Donc j'aimerais d'ailleurs qu'on le réveille à l'intérieur de nous. C'est quand, donnez-moi un moment de votre vie, vous avez été face à une grosse adversité, vous aviez un objectif, ça vous paraissait dur, compliqué, voire même impossible, et vous avez réussi. Peu importe dans quel domaine, ça peut être dans le business, dans le couple, dans la santé, ça peut être avec vos enfants, trouvez un souvenir d'un moment de votre vie où même vous-même, vous avez douté, je ne sais pas si je peux y arriver, mais à un moment donné, vous avez su trouver l'énergie dans vos tripes. Quand est-ce que c'était pour vous? Et l'idée, hein, c'est pas d'entendre la question en disant « Ah oui, c'est une belle question !» Non, vraiment, je vous pose la question. Quand j'accompagne des entrepreneurs ou des sportifs de haut niveau, je leur pose pas simplement la question, je vais les chercher jusqu'à ce que je sente qu'elles, les tripes, elles sont là, jusqu'à ce qu'ils aient les larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse. Je sens qu'on sente vraiment qu'on connecte au bide. Patrick Mouratoglou, hier, il me disait « À un moment donné, Serena Williams, elle passe par une phase de baisse. Pourtant, c'est Serena Williams. Mais tous ici, on réussit des choses et ça nous arrive d'être un peu dans le down, en bas. Et je lui dis, comment tu fais là pour changer son état d'esprit juste avant le match? Et ça m'a touché ce qu'il a dit. Il me dit, en fait, c'est Serena Williams. J'ai rien à lui apprendre. Je vais lui rappeler qu'elle est Serena Williams. Il lui a dit, assis-toi. Il dit, donc sa sœur, c'était Vénus. Ta sœur, c'était la préférée quand tu étais petite. Toi, tu te sentais petite à côté d'elle. Ça t'a mis la rage. T'as gagné telle victoire. Il lui raconte pendant 20 minutes qui elle est. Il me dit, j'ai vu dans ses yeux que c'était plus la même personne. Mais elle n'a pas simplement intellectualisé. Donc je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire? Vous, c'est peut-être pas Vénus, c'est autre chose. Là, comme ça, à voix haute, donnez-en moi une. Un truc qui est une victoire perso. Ouais, c'est quoi pour toi? Comment? T'as arrêté de boire. Bravo, on peut l'applaudir. Un maximum de bruit. Allez, une deuxième chose. Non, mais c'est important. Il y a une nana, il y a une nana un jour qui me dit, moi David, j'ai pas de courage, j'ai pas de force. Et je sais que c'est un mensonge, c'est un mensonge qu'elle se raconte. Et je creuse avec elle et je vais la chercher. Là, je peux pas vous chercher individuellement, mais je vais la chercher jusqu'à qu'on aille dans le bide. Et oulamment, elle me raconte qu'elle est dans le métro et qu'il y a un gars qui arrive avec un couteau comme ça et qui veut l'agresser. Et que là, elle a ressenti une force pour se protéger de dingue, pour le repousser et courir. Mais l'histoire s'arrête pas là. Elle arrive à survivre. Et là, elle s'arrête, elle se dit, ce mec-là va tuer des gens. Elle fait demi-tour. Elle va le chercher, trouve les flics, le fait arrêter. Et je lui dis, mais t'as pas de puissance. Au moment où elle a repensé à ce souvenir, pareil que Serena Williams, elle s'est redressée, elle respirait plus pareil. Dans la semaine qui a suivi, elle a fait quelque chose où ça faisait 25 ans qu'elle voulait le faire. Pas parce que j'ai un pouvoir particulier, je lui ai juste rappelé qui elle était. Donc, elle a montré l'exemple en osant parler en premier. Je sais qu'en France, on a du mal à parler en premier. Qu'est-ce que vous avez réussi si on était que juste tous les deux, vous me raconteriez avec les tripes. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire qui a du sens pour vous? Une conversation que vous avez eue, poser des limites, aborder quelqu'un, vous vendre un jour, oser créer votre salon de coiffure. C'est quoi un truc qui vous a paru dur et vous l'avez fait? Allez, une deuxième personne. Vas-y. Parler devant tout le monde. Et tu viens de le refaire. On peut l'applaudir. Allez, un maximum de bruit! Donc, juste pour qu'on ancre ce truc-là, en tout cas, vous n'allez pas être la même personne si tous les jours vous vous rappelez ce que vous avez déjà accompli. Vous n'allez pas être la même personne si vous vous répétez au moment où c'est dur. Putain, là, je grandis. Là, je suis en train d'apprendre. Qui ici a déjà vécu des adversités? Qui est parent ici? Qui a des enfants? Ou en tout cas, croit qu'il en a, je ne sais pas. Ok. Parce que des fois, c'est très drôle, il y a des couples et il n'y en a qu'un des deux qui lève la main, donc je ne sais pas s'ils sont... Ok, donc il y a beaucoup de gens qui sont parents. Qui ici a déjà vécu un truc dur pour soi et vous avez réussi à en faire quelque chose pour vos enfants, à en faire une leçon pour vos enfants, à faire quelque chose grâce à l'adversité, à être peut-être un autre père ou une autre mère et à apporter de la valeur à vos enfants? Qui a déjà réussi à transformer quelque chose? Non, rassurez-moi, plus que ça quand même. Qui ici a vécu un jour un truc dur et ça vous a permis d'être un autre père ou une autre mère? Ou peut-être d'avoir une complicité avec votre enfant que vous n'auriez pas eu, ou lui partager quelque chose, ou essayer de l'amener dans une direction parce que vous avez appris grâce à l'adversité. Qui a déjà vécu ça? Ou si ce n'est pas avec vos enfants, votre femme, votre mari, des gens autour de vous. Et donc, plus on se répète, et c'est vraiment prouvé qu'au moment où on vit l'adversité, l'enjeu, c'est de se parler à soi comme on aimerait qu'il y ait un coach ou un prof ou un parent qui nous parle. Ça libère un peu de dopamine dans le cerveau. C'est-à-dire que le simple fait, au moment où c'est dur, de se dire « là, je grandis », ça fait que la prochaine fois, c'est plus facile. Donc, comment attirer une masse de clients qualifiés? Comment recruter et garder des top talents? Comment avoir l'énergie au quotidien pour déplacer des montagnes? Là, à ce stade, on a changé notre rapport à l'échec et à la critique. Au lieu de laisser de l'éviter, on est même stimulé par ça. Balance-moi de la difficulté, parce que j'ai envie de devenir quelqu'un d'autre. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va attirer des gens? Alors, je pourrais vous donner plein de stratégies sur le recrutement. Et cette année, on est passé de 35 à 60, donc j'ai appris plein de choses où j'étais nul, qui m'ont permis d'avancer, mais il y a un truc qui a changé. Ça vous intéresse? Un truc qui résout ces trois trucs à la fois. Et je vais vous dire quelque chose qui peut vous sembler à la fois très simple, mais ce n'est pas un truc à comprendre avec la tête. C'est un truc à comprendre avec le cœur et avec votre ventre. Et je vois, là par exemple, on a eu rapidement une croissance jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis ça a été dur d'aller chercher 3 millions et demi, 4, 5 millions, et je ne comprenais pas pourquoi ça me paraissait si dur de continuer de croître. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que en 2010, j'ai pris un papier et j'ai marqué des rêves sur un papier. Les gens que je voulais rencontrer, le type d'entreprise que je voulais créer, qui j'avais envie de devenir, l'impact que je voulais avoir dans le monde. Et en 2018, ben, tous ces rêves-là, je les ai réalisés et j'étais à la fin d'un chapitre. Et je ne me rendais pas compte. Mais j'étais en train de mourir tranquillement. J'avais réalisé mes anciens rêves et je continuais, mais dans la lignée des rêves du David d'il y a 10 ans. Plus le qui je suis maintenant. Et naturellement, bah, j'étais moins attractif pour des talents. J'étais moins attractif pour des clients. Moi-même, quand je me levais le matin, je ne me reconnaissais pas. J'avais moins le feu. Ce n'était pas horrible, mais j'avais moins le feu. J'avais une moins forte capacité de conviction. J'avais moins d'idées. Et ça a duré pendant 2 ans, 2018-2020. Et je ramais comme ça. Alors, est-ce que je pouvais trouver des excuses en termes de conjoncture? Plein! Il y avait le Covid, j'avais une boîte 60% événementielle, je me suis pris des petites tartes. Donc j'avais plein d'excuses extérieures à moi. Je pouvais mettre du doigt la conjoncture, le fait qu'il y ait plus de concurrents, je pouvais mettre plein de choses du doigt. Mais si je suis honnête avec moi, le vrai sujet, c'est que j'avais plus vraiment un rêve là, viscéral, profond, qui m'animait le matin. Je l'avais eu, ça m'avait amené à 3 millions, mais je ne l'avais plus. Et quand j'ai passé du temps avec Richard Branson, un truc qui m'a vraiment touché là, c'est une phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, David, have audacious goal, donc aie des rêves ambitieux, audacieux, and have fun, et amuse-toi. Et en fait, vous savez, il y a des gens qui te disent une phrase, elle n'a pas d'impact, tu as le voisin qui dit la même phrase, elle a plus d'impact. Quand c'est Richard Branson qui te le dit et que tu as du respect pour lui, tu sais pas, toutes mes cellules se sont réveillées, et on dit, putain, il a raison. En fait, j'ai arrêté de rêver là. Et c'est vraiment quand je rencontre un Patrick Mouratoglou, un Alain Bernard, ou un Gary Vee, ou des gens dans tous les univers, je me rends compte que c'est des gens, le concept de rêve, il n'est pas juste intellectuel. C'est un truc qui est viscéral. Et c'est un sens qui est profond. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin 2018-2019, je me suis vraiment posé avec moi-même. en me demandant, bon, c'est quoi le prochain chapitre? Les prochains 10 ans, ils ressemblent à quoi? C'est quoi ton vrai combat? Parce qu'en fait, du chiffre d'affaires en plus, ça ne va rien changer à ma vie. Avoir un peu plus d'argent sur mon compte en banque, ça ne va rien changer à ma vie. En plus, on s'y habitue tellement vite. Manger dans des un peu meilleurs restaurants, ça ne va rien changer à ma vie. Faire un peu plus de millions de vues, ça ne changera rien non plus à ma vie. Et c'est ça que je faisais pour l'instant. Je mettais des 30% de plus là, des zéros de plus, et ça me prenait pas. Or, ce qui m'avait pris au début, et peut-être qui vous a pris à créer un salon de coiffure, c'est pas juste un chiffre. Et là, je me suis dit, c'est quoi le combat que tu es prêt à tout donner pour 10 ans, en fait? T'es prêt à galérer, t'es prêt même à redescendre, t'es prêt à que ça soit dur, parce que ça a du sens pour toi. Et c'est de ça que typiquement j'ai réinventé le nom de la boîte, on s'est appelé Paradox, on a commencé à poser la mission de la boîte, les valeurs, la vision, mais pas comme plein de boîtes qui le font pour mettre un truc sur un mur et que des gens trouvent ça cool. Je les ai réécrits et réécrites pendant des semaines, jusqu'à ce que quand je lise ma mission, les valeurs et la culture de la boîte, ça me mette les larmes aux yeux. Jusqu'à ce que quand j'en parle, je me dise « putain, je suis prêt à me battre pour ça ». Jusqu'à ce que je me dise « en fait, même si pendant 10 ans, j'ai pas plus de chiffre d'affaires, ça a du sens ce truc-là ». Et ce que je me rends compte, c'est qu'au bout d'un moment, on pense souvent que les entrepreneurs, ils sont là pour l'argent. On va pas se mentir, l'argent c'est génial, ça apporte plein de choses dans sa vie. Mais si c'est le seul moteur, et ben une fois que tu t'assures un petit peu de revenus, ça suffit pas à te bouger les fesses. Effectivement, si tu es dans la rue, l'argent c'est un moteur, tu as envie d'avoir ta sécurité. Mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Et je sais au fond de tous ici, il y a un combat qui a du sens. Est-ce que ce combat, pour certains, c'est créer le salon de coiffure ou les salons de coiffure avec l'expérience client la plus dingue? C'est un combat qui a du sens pour vous. C'est même pas un truc d'un an. Vous êtes prêt à dédier 10, voire peut-être certains, si c'est comme moi, toute votre vie à craquer ce problème-là. D'autres, c'est pas l'expérience cliente qui compte le plus. C'est créer la coupe, c'est créer la coiffure où les gens, ils voient ça, ils sont là en mode, putain, waouh! Ils sont émerveillés comme un artiste. Et vous êtes en train de vous dire, je vais me dédier ma vie à craquer ce problème-là. D'autres, vous aimez, vous êtes inspiré par des personnalités, des célébrités. Vous avez envie d'être le salon de coiffure, dans les salons de coiffure, qui ont craqué ce problème de comment créer une hype. Il y en a qui vont trouver ça nul, mais vous, ça vous stimule, ça vous inspire. Pour d'autres, c'est la décoration. Pour d'autres, c'est l'accueil, l'esprit familial. Pour d'autres, c'est vous avez des gens, vos clients, c'est des gens stressés, occupés. Vous allez tout faire. On vous vendez pas de la coiffure. Vous vendez un moment de détente. Vous voulez qu'ils repartent avec un massage, un moment où il a soufflé. Le problème des salons de coiffure et le problème de tous les entrepreneurs, c'est vouloir être bon partout. Or, dans vos tripes, tous ces combats ne se valent pas. Et à chaque fois que je choisis un combat, parce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent uniquement, je ne vais pas avoir l'énergie. Je ne vais pas pouvoir arriver face à une banque, face à des collaborateurs qui se demandent « Est-ce que je vais à Paradox ou est-ce que je vais dans l'autre boîte qui est à la mode ?» Je ne vais pas pouvoir être convaincant si moi, je ne suis pas convaincu de mon combat. Et tous ici, j'en suis convaincu. Il y a un truc, une raison profonde de pourquoi vous êtes dans la coiffure, une raison profonde de pourquoi vous avez créé un salon de coiffure. Et que même si on vous mettait 1 milliard sur votre compte, vous auriez toujours envie de craquer ce truc-là. Moi, on peut mettre 1 milliard sur le compte. J'aurais envie de craquer. Comment tu fais pour rendre sexy, pédagogique et impactant des clés qui permettent à des gens ambitieux de transformer leur vie? Donc ce qu'on fait, on a alloué des ressources, être prêt à gagner moins d'argent, être prêt à me payer moins de salaire pour recruter des chercheurs, des ingénieurs pédagogiques. Commencer à se dire, en fait, je ne peux pas simplement dire que je veux résoudre ce problème. Je veux dédier ma vie à ce problème-là. Comment faire en sorte que des clés qui peuvent changer la vie, les gens, ils ont envie de les utiliser? Soit parce qu'il y a la science à côté qui prouve que ça marche, soit parce que c'est plus sexy, le montage vidéo, il est meilleur, le storytelling, il est meilleur, le design, il est meilleur. Vous me suivez? Et ça, je ne sais pas pourquoi. Ça a du sens. Et donc, ça, c'est un truc que moi, j'utilise pour moi et pour mes clients. Qu'est-ce qui te passionne? Où est-ce que tu sais que tu peux être le meilleur? Et qu'est-ce que le monde a comme souffrance, comme difficulté? Et j'essaie de me focaliser sur ce truc-là. Un exo que je vous invite à faire, vous pouvez le prendre en photo, on ne va pas le faire là maintenant, c'est où est-ce que je suis prêt à investir plus d'efforts que mes concurrents pour apporter une valeur qui est précieuse et différente à mes clients? Et vous êtes d'accord que ce n'est pas un truc à regarder et dire « hop, c'est bon, j'ai compris ». Ça, on peut y passer 3 semaines, on peut y passer 1 an, on peut y passer 10 ans à se poser la question. Plus j'y réponds, plus mon business croît. C'est assez magique. Mais c'est normal. Un business, il est récompensé par sa capacité à apporter de la valeur. Pas des coupes. Apporter de la valeur. Moi, je ne vends pas des idées. Je vends une transformation. Vous me suivez ? Ce truc-là, il va faire que d'un coup, tu te lèves le matin, tu as plus d'énergie. Ça m'amène au troisième truc qui est lié à ça. Et encore une fois, je sais que ça va demander des changements, mais j'adore cette phrase d'Einstein. C'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Donc là, je vais pas pouvoir tous les présenter, mais c'est quelques exemples. Maintenant que je sais, je le ressens, ce que je veux, il y a un exercice qui est génial qui s'appelle la vision vivide. Le problème, c'est que moi, j'ai un truc qui me touche, mais arriver à le transmettre, c'est autre chose. L'exercice de la vision vivide, c'est d'arriver à décrire à quoi ressemble votre salon de coiffure dans 3-5 ans, de sorte que quand je vous écoute, j'ai une image mentale. Pour qu'il y ait une image mentale, ça veut dire qu'il y ait des sens. Vous me décrivez des couleurs, vous me décrivez des sourires ou pas, vous me décrivez ce que vous voyez, voyez. Si vous me dites juste, c'est un chiffre d'affaires, je ne peux pas avoir une image. Si vous me dites juste, les gens sont contents, je n'ai pas une image. Est-ce que les gens ils sont en train de sourire, est-ce qu'ils sont massés? En fait, c'est de prendre le temps d'écrire quelque chose que derrière, on peut transmettre à l'équipe. Je vous donne un exemple perso. Moi, je me disais, je veux transmettre à l'équipe et au monde qu'on n'est pas là pour des clients satisfaits, on est là pour simple, parce que clients satisfaits, c'est une chose, on est là pour que les gens ils transforment leur vie. Je me suis dit, comment je le rends pragmatique, concret, visuel, ils peuvent le toucher. Et ça m'a pris une semaine à trouver ce truc-là. Je me suis dit, en fait, on va créer un mur qui va s'appeler le mur des 100 000 rêves. Et on ne va pas mettre des clients satisfaits sur le mur, on va mettre des gens qui réalisent leurs rêves. Des gens qu'on a aidés et qui réalisent leurs rêves. Un tour du monde, parler en anglais, oser aborder l'homme ou la femme qui leur plaît, lever des fonds, leur premier million d'euros, peu importe. Mettre ça sur ce mur. D'un coup, ça me permet, quand j'ai un discours avec l'équipe, de leur dire, on n'est pas là pour vendre du coaching, on est là pour remplir ce mur. Dans 5 ans, le mur, il dépasse, on est obligé d'en avoir d'autres. On peut même créer un musée. Moi, c'est un de mes rêves, qu'on crée un musée dans 20 ans et que des gens visitent une boîte qui s'est dédiée, ça me fout des frissons de vous le dire, une boîte qui s'est dédiée pendant 20 ans à transformer des vies. Qu'on ait un musée, que des gens puissent le visiter. Est-ce que vous voyez que d'un coup, c'est beaucoup plus fort en termes d'image, d'imaginer plus de 100 000 visages de gens qui réalisent un truc important pour eux, que dire, oui, on veut des clients satisfaits, ou on veut faire 10 millions ou 100 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est un exemple. Rendre l'image vivide pour pouvoir la communiquer. L'histoire de la genèse, ça, c'est super important. C'est que moi, une fois que vous savez ce que vous voulez craquer comme problème, l'idée, c'est que j'ai envie de comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi ce problème, il compte pour vous? Moi, par exemple, j'ai détesté l'école. Naturellement, j'ai voulu créer, du coup, une pédagogie qui soit captivante, agréable à apprendre. Mon compétiteur, c'est pas les autres écoles de coaching. Mon compétiteur, c'est Netflix. Je veux que la personne, le soir, elle se dise, série, ou est-ce que j'apprends avec Paradox? Pour faire ça, ça veut dire qu'on doit être très, très bon sur plein de choses quand on fait une vidéo. Et ça m'excite. J'adore Netflix, qu'on soit d'accord. Mais comment une fois sur deux, elles se disent « Allez, je vais aller regarder ce documentaire de Paradox. Je vais aller apprendre sur tel aspect. Parce que ça va être pédagogique. Parce que ça va être agréable d'apprendre. » Et là, quand je vous raconte ma difficulté à l'école, ça vous permet de donner du sens à pourquoi la pédagogie est importante. Et en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre que ce n'est pas juste une stratégie marketing. Que ça a du sens avec vos tripes. Pourquoi faire les meilleures coupes, c'est important pour vous? Pourquoi créer une meilleure expérience client, c'est important pour vous? Pourquoi l'esprit de famille, c'est important pour vous? Ça, cette phrase-là, l'histoire de la Genèse, et s'entraîner à la véhiculer sur les réseaux sociaux, en soirée, en boîte de nuit, peu importe, la répéter en permanence, fait qu'il y a des gens qui vont entendre ça, des collaborateurs ou des clients qui vont se dire, ça existe comme boîte? On en reçoit des vidéos de gens qui lisent les offres d'emploi et qui nous font des vidéos les larmes aux yeux en disant j'ai lu l'offre d'emploi. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Vous imaginez, c'est une offre d'emploi quand même. J'ai eu les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'on a bossé pendant des semaines sur nos offres d'emploi. Pour que quand tu la lises, il y ait des gens qui regardent ça en disant ah, c'est nul, parfait, c'est que c'est pas pour toi. Et d'autres gens qui la voient en se disant mais c'est la boîte de mes rêves. J'ai pas besoin, il y a 7 milliards de personnes, on est 60, j'ai pas besoin de faire plaire à tout le monde. Même si on atteint les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou plus, à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va être 1000. J'ai besoin de convaincre que 1000 personnes. Donc, je veux faire en sorte de communiquer de sorte qu'il y ait plein de gens qui se disent « Ah, j'aime pas ça !» Mais d'autres qui se disent « Putain, waouh, ça existe une boîte comme ça ?» Tagline, c'est en une phrase synthétique arrivée à répéter aux équipes ou à l'externe ce que vous faites. Nous, on l'a fait en anglais. Reinvent breakthrough at scale, qui veut dire réinventer la manière de transformer des vies à grande échelle. Pour les équipes, ça simplifie en trois choses nos trois plus gros problèmes. Reinvent, design, pédagogie, rendre sexy, montage. Breakthrough, recherche aller plus loin dans qu'est-ce qui fait que ça marche, at scale, mettre des process, automatiser, recruter. En trois mots, l'équipe comprend c'est quoi notre combat. Et je suis prêt à aller jusqu'à mon dernier souffle pour ça. Je m'en fous de l'argent. Ce truc-là, il est incroyable. Si j'ai contribué dans ma vie, même si on n'a pas réussi, à faire avancer le monde là-dessus, je me sens le plus riche de la planète. Juste là, d'être en train d'avancer vers ça, je me sens déjà le plus riche de la planète. Communication répétée sur les réseaux. On veut que les gens y comprennent sur Internet, que vous n'êtes pas un salon de coiffure. Vous êtes en train de créer un mouvement. Apple, ce n'est pas des ordi qui vendent. Nike, ce n'est pas des chaussures qui vendent. Quand j'étais petit, que j'avais les Jordan aux pieds, je croyais que j'allais voler. Mais c'est vrai, c'est important. Les gens vont dire, oui, mais attends, tu sais très bien que t'es pas Jordan. Ouais, mais ton cerveau, il comprend pas comme ça. Hein. T'as vu Jordan avec les chaussures et t'es là en mode, wouh, c'est bon. Qui a déjà porté une autre tenue, un autre vêtement et vous sentiez différemment? Vous sentiez plus impactant, plus charismatique. Il y en a qui vont dire, oui, mais bon, c'est juste du tissu. Hein. Ouais, mais ton cerveau, il est pas en mode tissu. Publicité locale, ça c'est génial quand on a un salon de coiffure, c'est sous-exploité. Créer des publicités locales sur Facebook qui expriment ce que vous voulez faire pour que tout le monde soit au courant. Histoire des clients, le meilleur moyen de raconter votre unicité, c'est de la faire raconter par vos clients. Le meilleur moyen qu'on raconte Reinvent Breakthrough at Scale, c'est que ce soit nos clients, qu'on les filme et que ce soit eux qui le disent. Qui disent, j'ai jamais vu une pédagogie comme ça. Ah, il y avait de l'énergie. J'ai adoré le fait que tout ce qui est raconté soit vraiment documenté. C'est pas juste il a improvisé un truc parce qu'il a lu deux bouquins. On sent qu'il y a du travail. Vous voyez ? Que ce soit les clients qui le racontent, c'est toujours le mieux. Créer des réels, avant, après, encore une fois, faire parler vos clients, c'est sous-exploité. Je pense qu'il y a une opportunité de dingue là-dessus. De dingue ! Mais pas simplement un avant-après. Si votre truc, c'est la déco, ben on veut que les avant-après, ils montent de la déco, on veut l'ambiance, on veut le ressentir. Ça vous parle ? Faire des témoignages, les médias, pareil, si vous avez des médias, vous n'êtes pas un salon de coiffure, d'accord ? On n'est pas des salons de coiffure ici, on a une mission plus grande, et ça change tout dans l'attractivité. Et donc ce que j'ai envie que vous reteniez en trois, on va le répéter ensemble, communiquer, allez ensemble, communiquer, communiquer, communiquer. Et donc en fait c'est simple, en un, j'ai ce mindset de croissance où l'adversité me renforce, ça m'excite même. Pas tous les jours, hein. Des fois je me prends des tartes et je râle comme tout le monde. Je fais mon bébé, je me plains avec ma femme. Bon, après, des fois, elle me rappelle ce que j'enseigne, donc c'est encore plus douloureux. La deuxième, c'est de qu'est-ce qui est dans mes tripes ? Qu'est-ce qui me fait vraiment rêver ? Pas pour faire plaisir aux autres, moi. Et une fois que j'ai ça, que tout le monde soit au courant sur cette terre. Vraiment tout le monde. Même mon chat, il faut qu'il soit au courant. 4. Comment accélérer le recrutement ? Là, je vais aller rapidement, mais c'est un truc que j'adore. Je vous partage un truc qui n'a rien à voir juste avant. Quand j'ai, il y a plus de 11 ans maintenant, avant de rencontrer ma femme, je voulais rencontrer quelqu'un qui me plaisait. Et j'ai pris un papier, j'ai marqué ma femme idéale. Je l'ai bien décrit tout ce que j'avais envie. Ça remplissait un A4 en écrivant petit. Et j'étais content, tu vois, j'étais content de ce que je m'étais marqué. Mais là, en gros, j'étais en mode avoir, obtenir, prendre. Le déclic, ça a été de me dire, ok, c'est bien beau, David, de marquer ce que tu veux. Mais qui t'as besoin de devenir comme homme pour que cette femme-là, ça soit une évidence de l'attirer ? C'est bien beau de dire « je veux du chiffre d'affaires, je veux plus de clients, je veux plus d'équipes, moi, 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 moi ». Mais qu'est-ce que je donne à mes équipes ? Qu'est-ce que je donne aux autres ? Et c'est hyper important. Là, cette dernière année, c'était vraiment l'enjeu de recrutement. Et je me suis dit, en fait, déjà, moi, en tant que CEO, je ne peux pas être le même qu'avant. Pour les types de personnes que je veux, ils cherchent un autre CEO. Ils cherchent aussi une autre boîte, une autre culture. Je ne peux pas simplement mettre la même fiche de poste que tous les autres salons de coiffure, pas être connecté à mes propres rêves et dire j'ai envie d'avoir des top talents. Parce que le principe d'un top talent, à votre avis, est-ce qu'il a du choix ? Bien sûr qu'il a du choix. Quand tu es Jordan, à votre avis, est-ce que tu as un problème de recrutement ? Tu as un problème pour trouver un emploi ? Non ! Et donc la question c'est, si moi je veux Jordan, qu'est-ce que Jordan y veut ? Sachant qu'encore une fois, je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Moi, les gens qui vont sur un dracard, ils veulent quoi ? Ils veulent de l'ambition. Plus ils ont des collègues ambitieux, aussi fous qu'eux, plus ils veulent rejoindre le dracard. Plus la boîte, elle assume ce qu'on veut faire à l'international, les gens qu'on veut rencontrer, plus c'est fou, plus ça les excite. J'ai vu une annonce qui doit dater de 1900 quelque chose. C'est une annonce pour traverser l'Atlantique. Et c'est dingue l'annonce. Ça paraît, tu dis, mais personne va venir. C'est une annonce, une vraie annonce. Traversée de l'Atlantique, grande chance de mourir, non rémunérée. Tu te dis, non, travaille un peu mieux là, ton pitch. Les gens, ils ont fait la queue. Parce que c'était hyper clair à qui ça s'adresse. Et les gens qui s'adressaient, ça leur parlait ce langage-là. Par exemple, pendant longtemps, je n'assumais pas, lié à la culture du coaching en France, et la France en plus, le côté, j'ai un côté très performeur. J'adore la performance, d'où tout le temps que je passe avec des gens qui performent. Mais je ne l'assumais pas. Je me mettais dans la case du gentil coach, tout le temps souriant. Mais ce n'est pas que moi. Moi, j'adore performer. Et au début, je pensais que c'était un problème. Et c'est marqué en gros, en gras, en grand, sur les offres d'emploi. Que si, c'est marqué, ça n'est peut-être pas pour toi. Si tu veux un environnement douillet, confortable, où on y va tranquillement, ça va être horrible. On adore la performance, on est inspiré par Michael Jordan, on a envie d'être la NBA du coaching, on veut créer des trucs incroyables, on a envie d'impacter le monde, ça va vite, c'est le chaos, c'est le bordel, mais c'est excitant pour nous. Et des gens qui lisent ça et disent « Waouh, c'est incroyable !» J'ai une nana comme ça qui me dit « Ah, je sais pas si je rejoins Paradox. » Est-ce qu'elle était dans une grosse boîte. Et je lui ai dit, hyper sincèrement, je lui ai dit « Voilà, en fait, t'as un choix qui s'offre à toi. » Je dis « Soit c'est la croisière, vous savez, le gros bateau qui fait pas de vagues, t'as les pauses à 16 heures, t'as les grands-parents à côté de toi, et tu restes dans la croisière. Et c'est génial, si c'est ce que tu veux. Moi, c'est un drakkar. Le drakkar, c'est un bateau viking. Les chances de mourir sont élevées. Tu vas te retrouver au milieu des vagues. Ça va être le bordel. Par contre, on va peut-être faire quelque chose qu'aucune autre entreprise n'a jamais fait. On va vivre des moments qui sont incroyables. On va se marrer. Ça va être dingue. Choisis, en fait. Et elle a choisi de rester sur la croisière. Et c'est génial. Parce que si je lui vends la croisière et qu'elle se retrouve sur le drakkar, elle va me dire, mais c'est quand la pause? Je dis, non, mais là, il y a une vague de 4 mètres. Il faut survivre, là. Vous voyez? Et donc, c'est important que vous racontiez qui vous êtes. Pas simplement un truc qui fait bien, pas faire plaisir à tout le monde. Si ça plaît à tout le monde, c'est mauvais signe. C'est que c'est standard, c'est que c'est banal, c'est que c'est comme tous les autres salons de coiffure. On veut quelque chose qui est vous, un esprit familial fort, bref, tout ce qu'on a vu juste avant. Et donc ça, c'est un truc que j'adore. En marketing, on parle de USP. Je ne sais pas si vous avez entendu ce concept-là. USP, c'est Unique Selling Proposition. Donc c'est ce qu'on a dit un peu avant. C'est qu'est-ce qui est unique dans mon salon de coiffure. Ça, c'est orienté client. Et un déclic pour moi, ça a été de me dire, c'est quoi mon EVP, Employee Value Proposition. C'est quoi la proposition de valeur que je donne en tant qu'entreprise à mes collaborateurs? Qu'est-ce que je vais leur apporter qu'un autre salon de coiffure ne va pas leur apporter? Dans notre cas, on a synthétisé ça à 3 choses, alors on peut donner plein d'autres choses. Mais le cerveau, il a besoin de simplicité. Donc on s'est dit, c'est quoi les 3 choses qu'on te donne qui sont fortes, qui sont culturelles, qui sont différentes? Dans notre cas, on a simplifié ça à 3 mots. De l'ambition, comme je vous ai dit, de la liberté, tu peux travailler quand tu veux, d'où tu veux, géographiquement, et aussi en termes d'horaire et en remote, tu peux venir au bureau ou pas, t'es libre. Et dans tes libres, c'est un truc qui est important pour moi, c'est qu'on renforce le degré d'espace que la personne peut avoir. Et la 3e chose, c'est l'impact. L'impact déjà, parce que c'est beau en fait, de se lever le matin et de savoir que ta boîte, elle contribue à changer des vies. Mais aussi, un des sujets pour nous, c'est comment toi, dans l'entreprise, tu sens que tu as de l'impact, à titre personnel. Ça vous parle? Et donc, c'est quoi, je vous pose la question, c'est quoi, vous, votre EVP? Pourquoi je devrais vous rejoindre? Qu'est-ce qu'il y a d'unique chez vous? Parce que c'est bien de parler des clients, mais moi, un de mes déclics, c'était qu'en fait, l'élément le plus important de tout en entrepreneuriat, c'est tes équipes. Parce que si tu as les bonnes équipes, tu résous tous tes problèmes, tu résous tes problèmes d'innovation, tu résous ton service client, tu résous comment tu attires des clients. C'est tes équipes le sujet. Mais si tu veux des gens d'un autre cran, ou tu veux les garder l'un ou l'autre, hein, parce que ça se trouve tu les attires, tu les gardes pas, qu'est-ce que les gens que tu veux, ils veulent? Je vous laisse un petit peu méditer sur la question. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous répondez à cette question, c'est plus facile d'arriver à donner envie à des gens de vous rejoindre? Mais si c'est bah, « rejoins-moi, je suis un salon de coiffure bah, », pourquoi toi en fait? C'est juste du bol, du coup. Mais ce qui est magnifique, c'est que vous avez tous quelque chose. Certains, vous êtes des mamans, des papas. vous chouchoutez vos équipes. Et il y a des gens, ils veulent être chouchoutés. Vous avez compris que ce n'est pas ce que je vends, moi. Heureusement, j'ai des personnes dans l'équipe comme Laura qui chouchoutent. Mais moi, je ne suis pas la personne qui chouchoute le mieux. Donc heureusement que je ne vends pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quoi pour vous? Et je voudrais terminer sur une dernière clé qui est dingue. En 2020, donc comme je vous disais, Covid, je pense qu'il y a beaucoup dans la salle qui ont dégluté avec le Covid. Nous, ça a été le cas, on a perdu 60% de l'activité du jour au lendemain avec l'arrêt de tout ce qui est événementiel. Et c'était dur quand tu te retrouves à dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de coûts et que tu n'as plus les entrées. Je peux vous assurer, tu as vraiment l'impression d'une course contre la montre et de, dire, et de voir la falaise et toi qui tombes dedans avec les jours qui passent. C'était, je n'ai pas beaucoup dormi, mal dormi pendant cette période-là. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un champ de bataille avec comment je vais m'en sortir. Et au début, les premières semaines, ben comme cette personne qui est face à ce tigre, j'étais paniqué, je courais dans toutes les directions, j'essayais de faire plein de choses, j'essayais de relancer plein de produits, c'était le bordel. C'est comme quelqu'un qui est affolé sur le champ de bataille. Et je suis tombé sur une phrase qui elle m'a tellement marqué que je l'ai fait graver sur mon jeu d'échecs. Si, avant de vous donner la phrase, imaginez, on prend un immense arbre, je vous donne une hache, et vous êtes deux. Il y a vous et votre concurrent, chacun a un arbre, la même hache, tout pareil. Hein. Vous, il y a personne A, comme ça vous choisissez qui vous avez envie d'être. Personne A, vous allez envoyer 100 coups à 100 endroits différents. Dans l'arbre. Personne B, vous identifiez un endroit et vous mettez les 100 au même endroit. Lequel des deux fait tomber l'arbre? Personne B. Vous êtes d'accord que ça paraît con? Ça paraît tellement con qu'on ne le fait pas dans notre business. On fait plein de choses. Et là, c'est violent. Donc la phrase que j'ai marquée sur mon jeu d'échecs, c'est « L'essence de la stratégie, c'est de choisir à quoi tu dis non. » Et une autre variante de cette phrase que j'adore. « L'art de gagner la guerre, c'est de choisir la bataille qui compte. » Gagner les élections présidentielles américaines, c'est pas avoir le plus de votes. C'est avoir le plus d'États. Et donc tu peux avoir 99% de New York, 99% de la Californie et perdre si l'autre a 51% de plein d'États. Mais dans notre business, moi je me rappelle la fois où j'ai fait des cartes de visite. J'ai passé 3 semaines à faire des cartes de visite, que je n'ai pas distribuées d'ailleurs au passage. Donc typiquement, j'ai gagné une bataille qui ne servait à rien. J'ai fait des vidéos que je n'ai pas publiées, j'ai fait des publicités, j'ai fait plein de choses, j'ai lancé plein de produits. Et en fait, là, c'était tellement comme ça, je me suis dit avec l'équipe, s'il y avait une seule bataille qu'on gagnait, ça serait laquelle? Laquelle des batailles, si on la gagne, gagne le reste? Et une personne qui était assez incroyable dans l'histoire, c'est Hannibal. Hannibal qui est un chef militaire. Il a été capable de battre Rome à multiples reprises avec des armées non formées et plus petites. Mais ce qu'il était capable de faire Hannibal, c'était justement d'allouer mieux ses ressources et avec moins, parce qu'il était plus malin, de faire beaucoup mieux. Et c'est ça l'erreur. Souvent on se dit « Ouais, mais j'ai pas assez de budget marketing. Ouais, mais j'ai pas assez d'équipe. » Et on focalise sur ce qu'on n'a pas. La force de la stratégie, c'est de se dire comment je peux gagner avec ce que j'ai en fait. Et typiquement, il y a plein d'histoires qui sont fascinantes avec Hannibal et les Romains, ils se faisaient avoir. En gros, l'armée romaine arrive, balèze, en force, et t'avais les barbares d'Hannibal. Et au moment où l'armée romaine arrivait, les barbares se retournaient en courant et en hurlant, effrayés. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Les Romains, ils se disaient « Putain, on va les défoncer. » Et donc, ils commençaient à sortir des rangs et à courir. Sauf que c'était une stratégie. C'était juste pour qu'ils se désorganisent. Et au bout d'un moment, ils se retournaient. Et là, ils les encerclaient. Ils se retrouvaient coincés, les Romains. Et t'as beau être beaucoup, quand t'es coincé, t'arrives pas à mettre des bons coups d'épée. Hein. Et j'adore ce truc-là. Avec moins, faire beaucoup plus. Mais ça passe par quelle est la bataille du trimestre. Nous, dans notre cas, on s'est focalisé sur une seule chose. On a pris un seul produit. On avait au moins 15-20 produits. Et c'était inspiré de Steve Jobs. Quand Steve Jobs il est revenu chez Apple, la première chose qu'il a fait, il dit « Les gars, 80% de nos ordi, on arrête. » Vous imaginez, c'est violent. Hein. Il a arrêté 80% des chaînes de production, des chaînes d'innovation. Il a simplifié toute la boîte à quelques trucs. Et Apple est reparti. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, bon, faut pas tout gagner. On va focaliser sur l'école de coaching. Et en 2020, alors qu'on a perdu 60% de notre CA, on va réussir à faire de peu la meilleure année de toute l'histoire de la boîte. Parce qu'on se focalise au bon endroit. Et je sais que vous avez appris plein de choses hyper intéressantes dans ces 3 jours. Il y a eu des conversations intéressantes, des réflexions que vous avez eues. Et j'avais envie de finir là-dessus parce que c'est important. Souvent, quand on est dans un événement, on a plein de choses qu'on pourrait faire. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois de me stresser en me disant « Ah, je pourrais faire ça, 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 ça. » Et de croire que la clé du prochain trimestre, c'est de tout faire. Mais j'adore cette phrase de Bruce Lee. « Je crains plus quelqu'un qui s'est entraîné à faire 1000 fois le même coup de pied que 1000 coups de pied différents. » Et donc, j'avais envie de vous poser la question. C'est quoi la bataille qui, si vous la gagnez, va tout changer? Un élément, le reste, on garde pareil. Mais c'est quoi un truc qui, si on met son énergie avec l'équipe, on se met tous ensemble, sur ce truc-là, ça peut tout faire décoller. Et il y a un truc en tant que leader d'entreprise, et je le vois plus en grossi, c'est que parfois, je crois qu'une priorité est claire pour moi et pour les équipes. Mais quand je vous disais communiquer, 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 c'est aussi valable en interne. À un moment donné, je me suis rendu compte, c'est, en fait, nous, notre bataille, c'était le recrutement. Et en fait, il n'y a pas une conversation avec les équipes où je ne leur ai pas répété. La seule chose qui compte pour moi, c'est le recrutement. Qu'on améliore les offres d'emploi, qu'on communique mieux, qu'on améliore la marque employeur, qu'on améliore le process de recrutement. Je veux ça. Je m'en fous du chiffre d'affaires. Je m'en fous des vues. Je m'en fous de tout le reste. Ce trimestre, on gagne le recrutement. Ah ! Et quand... Non, je ne communique pas comme ça. Hein. Quand tu fais ça, au bout d'un moment, tout le monde se dit « Ah, ok, c'est clair maintenant, j'ai compris la priorité. » Non, mais c'est vrai. C'est quoi la priorité pour votre trimestre? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Changer un truc de l'expérience client. Travailler l'accueil. Travailler une coupe. Travailler la carte. Travailler les réels. Choisissez. Donc, quelques phrases que j'adore. L'efficience consiste à bien faire les choses. L'efficacité consiste à faire les bonnes choses. Et parfois, on va s'avouer, moi ça m'arrive, parce que c'est confortable de faire des petites choses que je connais, je crois que j'avance. C'est comme répondre à des mails. Tu crois que tu avances, que tu réponds à des mails. Tu crois que tu avances parce que tu fais des trucs que tu fais d'habitude. Mais sortir la tête de l'eau et se dire, bon, c'est quoi le truc qui, si je le fais, peut changer ma vie, en fait? Et souvent, hein, ça me ramène au premier. C'est le truc qui fait peur. C'est le truc inconfortable. Moi, le recrutement, je me sentais nul. J'avais l'impression de ne pas y arriver. J'étais en mindset fixe. Je me disais, putain, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, je suis pas compétent, de toute façon, j'aime pas ça. Mindset fixe. C'est dur, t'es en train d'apprendre. C'est dur, tu vas pouvoir en faire un cadeau à d'autres personnes, à d'autres entrepreneurs. Là, c'est incroyable. Je suis même en train de penser à faire une formation sur le recrutement. J'ai tellement bouffé de ce sujet que là, je me dis, mais je peux pas garder ça pour moi. Je suis passé de « je suis nul, je suis incompétent, c'est pas pour moi, j'ai pas la bonne génétique » à « je peux créer une formation ». C'est quand même incroyable, le cerveau. Donc c'est quoi pour vous la bataille qui, si on met son focus, tout le monde ensemble, tous ensemble, peut-être que dans un trimestre, on a posé les graines pour que ça décolle. Et peut-être parfois, d'ailleurs c'est contre-intuitif, que les résultats financiers, on les voit pas forcément à la fin du trimestre. Mais on sait que c'est ce qui compte. Je pense que le vrai nous, c'est pas la version de nous qui est juste connectée à l'amygdale et qui essaye de fuir le danger. Et ça, c'est vraiment le truc qui me fascine. Quand tu laisses l'amygdale dicter ta vie, bah, tu penses petit, tu fuis les responsabilités, tu blâmes l'extérieur, tu blâmes le Covid, tu blâmes ton président, tu cherches à éviter l'inconfort, tu évites de t'exprimer, d'oser dire non, tu évites d'assumer ton message, ta différence, tu succombes à la gratification immédiate, que c'est ce que veut ton amygdale, tu compenses ta frustration par des gâteaux, du chocolat, on le fait tous, le pot de Nutella, c'est assez cool, tu scrolles et scrolles encore, tu trouves des excuses pour ne pas saisir les opportunités qui peuvent changer ta vie, et tu joues petit, pas parce que t'es petit. Tu joues petit parce que tu laisses cette partie primitive de ton cerveau essayer de survivre. Mais t'es pas ici dans le séminaire. Vous n'avez pas payé ce séminaire pour survivre, je crois. Survivre, c'est avoir la même vie qu'hier. Je pense et je le crois, j'ai accompagné tellement de gens et rencontré tellement de gens qui m'inspirent. Le vrai toi, c'est un toi qui est inspiré. C'est un toi qui est confiant. C'est un toi qui rêve plus grand. J'en suis sûr. J'aurais adoré avoir le David de 15 ans, suicidaire, lui dire « Hey, regarde la vie que tu peux voir, que tu peux vivre. » J'adorerais, franchement. Asseoir David là, le David de 15 ans, lui dire « Regarde, regarde ce qui est possible. Quand tous les jours tu fais un petit truc inconfortable, regarde ce qui est possible. Je suis tellement heureux qu'il se soit pas suicidé, qu'il ait donné une chance à sa vie. » Le vrai toi, il désire contribuer. Le vrai toi, il prend son pouvoir. Et je pense vraiment que tous ici, on est nés pour se créer une vie de dingue. Je vous souhaite ça. Merci à vous.